Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Jason Pédagogie numérique. Alors dans cet épisode, je vais recevoir Sébastien Hamel qui est conseiller technopédagogique au Cégep de Drummondville. Je l'ai rencontré dans le réseau des répondants et des répondantiques. Et Sébastien, c'est ce qu'on appelle le conseiller technopédagogique super techno. Il accompagne des enseignants, des conseillers pédagogiques et des étudiants dans l'appropriation du numérique au Cégep. Et il va partager avec nous, le temps d'un balado, sa définition du conseiller ou de la conseillère technopédagogique et aussi de l'avancée de l'usage des technologies en enseignement. Alors, je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour Sébastien, je suis vraiment enchantée que tu sois parmi nous. Je me nounoie pas là, mais en tout cas dans cette conversation à deux autour de la technopédagogie, on va en parler un peu plus. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus sur toi Sébastien?
Écoute, présentement je travaille au Cégep de Drummondville, je suis conseiller pédagogique en technopédagogie, donc je suis représentant reptique. Ça fait 3 ans, là, dans quelques jours, que je suis à cet endroit-là. Mais originairement, là, je suis un prof de sciences du secondaire qui a étudié là en sciences, qui a enseigné les maths, les sciences. J'ai eu l'occasion de démarrer des classes avec des ordinateurs portables. Je travaillais beaucoup avec les étudiants en sciences et maths là avec le portable. Puis ça m'a amené à devenir CPTIC au centre scolaire où je travaillais pendant 10 ans, avant de faire le saut au cégep. Donc, un petit résumé qui donne un peu de mon parcours.
Tu mènes directement justement à ma question rituelle que je pose souvent aux conseillers technopédagogiques ou en fait aux acteurs du réseau collégial de l'enseignement supérieur. Donc, je comprends que tu étais enseignant en sciences, les sciences pures. Moi, c'est sciences humaines, donc c'est ce qu'on appelle les sciences pures, là. Comment t'en es arrivé à là? Comment t'en es arrivé à être conseiller technopédagogique? Qu'est-ce qui t'a animé?
Je pense que tout ça démarre d'un intérêt pour l'ordinateur, le milieu informatique, puis d'avoir été en contact assez jeune. Pour donner un exemple, là, les plus vieux, en tout cas, ça traduit un peu mon âge, là, vous allez reconnaître le terme Commodore 64, là, la programmation basic, puis tout ça, faire un peu de programmation secondaire, puis apprendre et découvrir le potentiel qu'il y a derrière ça, parce que j'ai eu la chance d'aller à une école secondaire privée où il y avait une fondation qui avait remis des ordinateurs, là, écoute, des 386 à l'époque, là, avec des disquettes, là, 3 pouces et quart, 3 pouces et demi. En tout cas, on avait passé du 2 au 3, c'était plus rapide, puis on était en réseau. Tu sais, il y avait quelque chose d'intéressant là. Je me suis fait un ami qui était assez calé en informatique, donc j'ai appris, donc tout le temps eu cet intérêt-là. Donc, dans les écoles où j'ai commencé à enseigner, ben j'utilisais l'ordinateur, j'utilisais ça, puis j'intégrais ça là comme avec les moyens qu'on avait au début des années 2000. Là. Donc, c'est vraiment l'intérêt qui a fait que ça a pris de la place de plus en plus dans ma pratique de prof, et ce qui m'a amené éventuellement à démarrer un programme là avec, on appelait ça programme ouverture sur le monde, donc nos étudiants avaient des portables, puis on travaillait avec ça, puis c'est ça, cet intérêt, sentir que je pouvais aider les autres là-dedans aussi. À un moment donné, c'est ça, le qu'est-ce qui fait qu'on veut devenir un technopédagogue ou aider les autres conseillers pédagogiques? Ben, c'est de sentir que j'ai peut-être ce qu'il faut pour aider les autres à suivre le même chemin, puis à les aider. Donc, c'est ce qui m'a amené à postuler pour un poste de CPT que j'ai fait pendant 10 ans, là, 13 ans maintenant, là, avec ce que je fais au Cégep. C'est le désir d'aider les autres. Puis c'est drôle parce qu'à l'origine, quand vient le temps de choisir quelque chose qu'on veut faire dans la vie, moi, j'avais des sciences parce que j'aimais ça, mais c'était aussi le désir d'aider. Dans mon travail, je voulais aider les autres. Ça remonte de loin, ça, on peut dire.
Ouais.
Désir d'aider les autres, c'est ce qui fait que maintenant, je continue de les aider d'une autre façon.
Mais c'est super qu'en nommant Commodore, là, ça me rappelle aussi que ça va aussi nous donner des indices sur mon âge, là, mais mon père, c'est ça, je suis française, donc on habitait dans la banlieue parisienne, puis mon père, c'était le premier du quartier à avoir, à apporter le Commodore, puis à l'époque, il y avait des voisins qui découvraient l'ordinateur, puis ils appuyaient sur les touches, c'est fantastique, et d'ailleurs, ce rapport à la technologie, je pense, pour beaucoup, c'est souvent, en fait, le rapport à la première fois où on a eu accès, en fait, à ce type de technologie. Ça me fait poser la question, tu sais, tu viens de dire que tu avais en fait travaillé avec les étudiants, avec les ordinateurs pour faire cette forme. C'était en quelle année ça dans ta pratique, en fait, dans ton enseignement en sciences, à peu près?
Je dirais qu'on a commencé le projet peut-être en 2005, 6, 7, là, dans ce coin-là, parce que je suis devenu conseiller pédagogique en 2010. Mm-hmm. Donc, c'est dans les dernières années là, qu'on avait parti ça. Peut-être 4, 5, 6, là. Je dirais, là, dans ces années-là, on a lancé ça. Le but, c'était que toutes les matières se travaillent le plus possible avec l'ordinateur portable. En maths et sciences, c'était quand même facilitant. Là, on pouvait faire de la recherche, on faisait faire aussi de la production, parce qu'il faut vraiment amener l'étudiant à sortir du surf, là. Tu sais, surfer sur Internet, puis naviguer, puis regarder, puis consulter. Il faut vraiment passer de cette étape-là à une posture de production.
Ouais.
De réorganisation d'informations. Fait qu'il y a beaucoup de gestion d'informations derrière tout ça pour tirer profit de ce qu'on trouve, par exemple, sur Internet. Puis faire des projets, utiliser Excel en mathématiques, les logiciels de géométrie. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on pouvait utiliser. Puis en même temps, j'étais un peu l'espèce de prof ressource avec mes collègues qui étaient peut-être moins habitués. Donc, c'était intéressant. On avait démarré en première secondaire, puis après ça, j'ai suivi en deux, puis en trois, puis le programme arrêtait en trois parce qu'après ça, c'était difficile avec les options de mathématiques du quatrième secondaire. Donc, j'ai eu là, les troisièmes secondaires jusqu'au moment où j'ai quitté là, pour un nouvel emploi et un nouveau défi.
Mais c'est intéressant parce que tu parles de l'utilisation en fait, des ordinateurs en 2005-2006. Je me pose la question des compétences, en fait, qui sont validées, ne serait-ce qu'au primaire, puis ensuite on parlera bien sûr du réseau collégial, dans l'outil en fait numérique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire, 10 ans après, même plus, je dirais 20 ans après, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une avancée par rapport au moment où tu as commencé à introduire l'ordinateur sur les pratiques et les compétences qui sont développées auprès des étudiants dans l'appropriation du numérique et des outils numériques?
Ça va être une réponse nuancée, parce que d'une part, oui, il y a eu du progrès parce que la technologie a évolué, on a des nouveaux moyens qui simplifient beaucoup T'sais, on est rendu avec la réalité virtuelle, on a la technologie intéressante, il y en a qui l'utilisent, mais je suis un peu forcé de dire que l'intégration n'est pas encore ce qu'elle devrait être, à mon avis. Opérer des changements en éducation, c'est très long, c'est très lent. Et je pense que tant qu'on n'aura pas une compétence à évaluer de façon officielle concernant l'éthique, ça va toujours rester au bon vouloir des profs selon la disponibilité du matériel qu'ils ont, de l'intérêt qu'ils ont à l'intégrer. Donc, il y en a qui se lancent, il y en a qui explorent, qui découvrent, ils font des choses hyper intéressantes. Puis il y en a d'autres qui sont plus conservateurs et qui s'approprient ça plus tranquillement. Donc, ça crée une géométrie variable dans le réseau. Pour revenir à la question, là, j'aurais souhaité que ça le soit un peu plus. Là. On a des jeunes du cégep qui arrivent. Là, je suis rendu au collégial et je sais un peu par où ils passent. Puis à l'époque, quand j'étais conseiller pédagogique au centre scolaire, j'avais des rencontres parfois avec mes répondantiques de chaque école, là, primaire et de secondaire. Puis les enseignants de secondaire réalisaient à quel point au primaire, ils se faisaient beaucoup, beaucoup de techno. C'est comme si au primaire, il s'en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que le prof est avec ses étudiants à longueur de journée. C'est lui qui prend en charge, puis il se place des périodes au local d'informatique. Dans le centre scolaire où on était, on avait fait un bel aménagement de local d'informatique on les avait équipés avec de la robotique, on les avait équipés avec des tablettes, on avait les ordinateurs, on avait l'air climatisé dans ce local-là pour que ce soit intéressant d'y aller parce que sinon, il fait très, très chaud. Donc, au primaire, il s'en fait beaucoup. Au secondaire, il s'en fait moins parce que là, l'élève là, devient un peu l'affaire de tout le monde. Mais quand c'est tout le monde qui doit s'en occuper, ben on dirait que personne finit par le faire. Là, la classique histoire des quatre personnes, là. Chacun et quelqu'un, puis tout le monde, puis personne.
Oui, c'est ça. Puis aussi, effectivement, comme tu dis, c'est intéressant parce qu'au primaire, tu sais, c'est l'enseignant qui fait tout là. Et arrivé au secondaire, ben, l'étudiant, il fait face à plusieurs enseignants experts dans leur discipline. Donc, tu sais, ça demande un peu plus d'efforts d'aller travailler conjointement, collaborer avec d'autres collègues pour savoir comment, de manière transversale, on va intégrer telle ou telle pratique pédagogique numérique ou quoi. Donc, effectivement, il y a comme un saut, puis arriver au cégep, qu'est-ce qui se passe?
Bien, au cégep, on conçoit, on pense que les étudiants sont super habiles. Oui, ils sont habiles, ils manipulent, ils vivent là-dedans, mais ils sont très dans la communication, dans l'information m'arrive. Là, tu sais, je m'abonne, je like et je vois là, par les algorithmes là, des éléments qui m'intéressent. Donc, je n'ai pas à forcer la recherche tant que ça, à moins d'y être obligé ou d'avoir le désir d'aller chercher tout ça. Donc, on a mis en place pour les aider là, un groupe de tuteurs étudiants qui sont là pour soutenir nos étudiants dans la réalisation de certains travaux, certaines tâches qu'ils ont à faire au cégep parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines lacunes. Bon, tout le monde, là, il y en a qui sont hyper performants, qui sont très au fait, puis ils ont des bonnes pratiques de recherche. Il y a des enseignants qui les amènent à la bibliothèque, puis les bibliothécaires ont des bonnes stratégies de recherche qui leur montrent. Mais il faut quand même, on dirait, revenir à une certaine base. Là, donc, c'est quand même drôle de voir ça, je trouve, là, dans un milieu où, une époque plutôt, je dirais, là, où la technologie est tellement omniprésente, mais de voir que les jeunes restent encore au niveau des consommateurs de surface. Ils vont produire du contenu, mais tu sais, de façon très, 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 très imagée, là, la photo, les petites vidéos, là, des éléments comme ça, mais de là à se lancer dans la grande production, l'intégration de contenu. Ils le font parce qu'ils ont la maturité d'y arriver, là, mais il faut les amener dans des contextes où ils vont le faire, puis ils sont en mesure de le faire. Il y en a qui ont besoin d'un peu d'aide, puis on essaye de les soutenir le plus possible là-dedans pour qu'ils répondent aux exigences des enseignants.
Écoute, il y a à peu près 5-6 ans de ça, je travaillais avec un collègue, Quinn, à Saint-Laurent. Il était en stage, en fait, avec moi au temps de la Green Technologies Education. Ils avaient écrit une lettre commune avec les étudiants pour dénoncer, en fait, justement, le décalage qu'il y avait par rapport à certains enseignants qui prenaient ce parti pris d'intégrer la découverte du numérique au travers de leur discipline, parce que pour eux, c'était important d'accompagner les étudiants de cette manière, puis d'autres qui n'étaient pas trop axés techno, puis qui décidaient de se concentrer plus sur la théorie et sur leur discipline, ce qui est tout à fait pertinent aussi, mais cette lettre, elle dénonçait vraiment, elle parlait pas de génération sacrifiée, mais elle mettait vraiment de l'avant un peu ce qu'on était en train de faire, en fait, avec ces générations. Tu sais, moi, j'ai un fils qui est en fin du secondaire, là, qui va au cégep. Bien sûr, il a un papa ingénieur. Moi, je suis en pédagogie numérique, donc il est quand même pas mal loti dans la découverte que je fais à côté à la maison. Mais des fois, j'ai affaire à ces camarades et je suis vraiment surprise et étonnée. Tu sais que c'est même pas dans la prise en main de l'outil, mais c'est dans l'exploration de ce que ça fait un ordinateur. J'ai vécu pendant longtemps à Hong Kong, puis il y avait vraiment des étudiants là qui étaient vraiment à la pointe de la pointe parce que c'était intégré, puis c'était des matières qui étaient, alors j'allais dire compulsives en anglais, mais qui étaient obligatoires dès le primaire. Donc, on se rend compte que primaire, obligatoire, secondaire, ça fait en enseignement supérieur, bien sûr, des étudiants qui veulent pas nécessairement creuser dans cette branche-là, mais qui sont tous à même de savoir qu'est-ce que c'est que le code, qu'est-ce que c'est que comment je vais faire attention à mes données personnelles, etc., etc. Il y avait quand même quelque chose qui était fait et qui a un manque encore aujourd'hui que je... Alors, on fait partie de ces communautés qui se débattent pour, mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu... que certaines avancées, est-ce que tu penses que dans un futur proche, il va y avoir ces compétences obligatoires que l'étudiant va devoir avoir dans le tronc commun d'enseignement au cégep?
Je suis convaincu que si on veut qu'il y ait une progression, il va falloir amener une structure officielle pour organiser le tout. Puis là, c'est certain que si on, exemple, on fait un genre de cursus, mais on va avoir des étudiants qui le maîtrisent déjà. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui, tu sais, faut quasiment créer déjà comme les cours d'anglais, là, avec débutants, intermédiaires et avancés pour répondre à tous les besoins. Mais oui, ça va un peu avec ce que je disais au début. Si on n'est pas obligé de le faire, ça risque de tomber un peu en second plan. Mais, par contre, dans les 2-3 dernières années, on a vécu un épisode social qui a forcé les enseignants à intégrer davantage les technologies. Puis là, ça, je pense que ça a été très positif parce que quand je suis arrivé en place au cégep, je suis arrivé le 13 janvier, deux mois, jour pour jour, avant que les cours tombent en présence. Puis après ça, on reprenne à distance là, à peu près 2 semaines après. Donc,
ça a été un début de...
J'ai fait un certain constat là, en 2 mois pour voir que... L'enseignement est encore très traditionnel, c'est magistral. Il y en a qui exploitent beaucoup, bon, les logiciels de présentation, le PowerPoint, puis tout ça, mais ça se limitait beaucoup à la diffusion de contenu. Là, avec la reprise des cours à distance, bien là, l'évaluation en ligne est arrivée, puis les outils d'évaluation ont pris de la place, et il y a des enseignants qui ont continué de les utiliser. Puis ça, je trouve ça génial, parce que ça les amène à revoir leur méthode d'évaluation, à changer la façon dont ils posent des questions, à changer l'approche qu'ils ont pour l'enseignement en vue, oui, du développement de la compétence, mais aussi de l'évaluation puis de la sanction. Donc, il y a ça de positif. Donc, je trouve qu'on est quand même choyé d'avoir vécu cette période-là parce que l'acquisition de compétences TIC de nos profs a été accélérée puis va, espérons-le, continuer de le faire là, dans un futur proche. Puis, je le vois, puis j'en consulte. Pas je consulte, mais j'ai des enseignants qui me consultent, puis je les accompagne. Et il y en a qui ont vraiment continué les pratiques qu'ils avaient amorcées, puis des enseignants qui n'étaient pas du tout techno. Là. Je prends exemple des gens de métier, un psychologue qui enseigne certains cours, mais que là, hey, là l'évaluation en ligne avec des questions de rétroaction. Donc, on va vraiment là, utiliser les possibilités que les outils nous permettent pour aider l'étudiant dans son apprentissage, son développement de compétences. Donc ça, oui, il y a un bon futur pour les technos, mais faut pas abandonner. Puis c'est un travail constant. Puis les reptiques de tous les cégeps, c'est un peu ça qu'on fait. Hein. On essaie d'accompagner nos enseignants, puis on le fait avec ceux qui sont volontaires en premier. Mais il y a toute une masse qu'on entend moins parler, qui est sujet à dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment on peut aller les chercher? Qu'est-ce qui... T'sais, peut-être qu'ils en font, mais on ne sait pas trop parce qu'on quand même, tu sais, je suis un CP dans un cégep où on a 250-300 profs, là. Fait que c'est quand même moins que j'avais au centre scolaire où il y avait 1500 profs, là.
C'est quand même une bonne masse critique, oui, effectivement. Ouais. Mais c'est ça, mais j'en viens justement, si tu fais comme des transitions tout seul, c'est super. Mais c'est ça, tu as mentionné plusieurs fois accompagnement, conseil, coaching pédagogique. Puis lorsqu'on s'est rencontrés lors de la dernière rencontre reptique, il me semble que c'était octobre 2022.
Oui.
Il y avait une question, il me semble, d'un collègue, Alexandre Edpan, sur le terme technopédagogie. Il avait ouvert justement cette question qui est venue me chercher sur, moi j'appelle ça un peu le spectre de la technopédagogie, c'est-à-dire la perception que j'ai par exemple de moi, technopédagogue, qui est plus du fait de mon expérience, de mon background, je suis anthropologue, je suis professeure de sciences humaines et de français, je me vois plus être comme en accompagnement et je me nomme plus être conseillère en pédagogie numérique. C'est-à-dire que je vais plutôt axer en fait toute la pédagogie et l'adapter en fait à des outils numériques. Puis, je ne sais pas si c'était toi ou il me semble que c'était David Laplante, un autre collègue conseiller pédagogique, qui avait dit « moi, en fait, le terme pédagogique me convient ». Puis à partir de ce moment-là, j'ai compris effectivement qu'on n'est pas tous placés au même niveau. Même dans ce spectre technopédagogique, est-ce que tu pourrais justement me dire, toi, où est-ce que tu te places, puis qu'est-ce que tu en penses de ce spectre pédagogie numérique à technopédagogique?
Il y a deux choses là-dedans. Il y a la fonction hein, qu'on occupe dans une organisation, un rôle qu'on nous attribue, puis tout ça. Puis il y a la personne derrière qui a son bagage, puis qui n'est pas le même qu'aucune autre personne. Puis notre expérience, notre bagage fait qu'on va avoir une approche peut-être nuancé, on va le dire comme ça, là. Il y en a, moi, je suis un gars beaucoup, un gars très de terrain, un peu de technique, peut-être un peu plus sur les bords, mais ça donne souvent une porte d'entrée pour les profs de me contacter pour dire comment je pourrais faire telle chose. Fait que le côté comment l'outil fonctionne puis se mettre les mains dedans va être la porte d'entrée, mais bon, je vais me rendre vers la pédagogie après avec eux. Il y en a d'autres que la techno, puis les mains dans la techno, elles sont moins à l'aise, mais ils vont avoir une force pédagogique. Donc, tout de suite, ils vont utiliser cette porte d'entrée-là avec les profs pour vraiment répondre aux besoins pédagogiques qu'ils ont. Donc, c'est une géométrie qui est quand même différente selon les personnes, mais en bout de ligne, on répond aux besoins des gens. Puis les gens partent, puis ils sont hyper contents, puis ils ont besoin d'un certain niveau d'accompagnement pour se lancer. Puis après ça, ils vont venir nous revoir pour aller un peu plus loin. Puis c'est ça qui demande du temps, puis qui demande un peu de... C'est un accompagnement, c'est pas juste là, je te montre tout tout d'un coup, puis après ça, tu pars, c'est ça. Il y a une base, puis la base, ben, va évoluer avec le temps, donc c'est ouais, difficile de trancher, hein, au, t'sais, bon, ouais. C'est technopédagogique ou pédago-numérique. Je pense que ça peut faire des termes qui se ressemblent. Ouais. Hein? C'est ça, c'est un spectre. Je trouve que ton exemple, là, ça illustre bien ce que c'est. C'est un spectre. C'est comme la lumière, là. Il y a de la lumière de toutes les couleurs. Puis il y en a même, on peut se rendre à des rayonnements invisibles, tu sais.
Ouais.
Dans les deux côtés du spectre. Oui, je trouve que c'est une belle description.
Ouais,
parce que chez nos profs, on a un spectre de niveau d'intégration des technologies aussi, là.
Effectivement.
Et non seulement les individus, mais le milieu dans lequel ils évoluent, là, leur département, ce qu'ils enseignent comme cours, influence beaucoup le niveau d'intégration des TIC. Là. Si je prends par exemple en technologie sonore, un programme qu'on a à Drummondville pour lequel j'ai un intérêt là, personnel, ils font des sessions d'enregistrement sur Pro Tools avec 24 entrées, avec une batterie, drum, basse, clavier, chanteur... tout en même temps. Donc, eux, ils vont faire... ils utilisent que la technologie, là, pratiquement, là, pour fonctionner. Il y a des programmes d'art qui vont utiliser beaucoup certains logiciels de traitement de photos. Génie mécanique, qui font beaucoup de conception 3D. Puis, t'as d'autres programmes où ça s'y prête moins. La technologie va être plus un soutien à l'enseignement pour diffuser l'information. Mais l'évaluation est quand même toujours là. Fait que l'évaluation, peu importe on est dans quel département... l'évaluation, c'est un... ça va de soi, là. On a besoin d'évaluer pour qualifier, puis amener une sanction avec un diplôme. Donc, là, je pense que la porte d'entrée de la technologie peut être intéressante parce que quand les profs comprennent que quand j'utilise un certain outil et que mes questions se corrigent toutes seules, puis que la rétroaction se donne toute seule, waouh, j'ai mis du temps à le préparer, mais je gagne du temps pour lors de la correction. Puis c'est un outil, je trouve, pour l'évaluation formative, qui est vraiment génial, parce que l'étudiant peut le refaire le nombre de fois qu'il veut. À chaque fois, il y a une rétroaction intéressante et intelligente qu'il guide dans son erreur pour dire, bien, regarde, tu as répondu ça, probablement parce que tu pensais ça, mais puis on recontextualise les bonnes notions. Donc, l'évaluation reste quelque chose au moins commun à tout le monde, même s'ils ont des différences dans chacun des départements.
Oui, ça mène à la question de la conception pédagogique. C'est toujours un peu cette idée d'un monde...
dans le sens de design.
Oui, c'est ça, dans le sens de design pédagogique. Cette idée, en fait, que l'idéal, ce serait en fait par Cégep d'avoir une équipe en technopédagogie avec deux ou trois CPTIC selon la grosseur du Cégep ou de l'institution qui pourrait en fait intégrer en fait la technopédagogie avec justement dans le spectre pédago-numérique, plus dans le questionnement, le comment, puis des technopédagogues qui mettraient plus la main à la pâte, et puis dans cette équipe renforcée par des concepteurs pédagogiques, c'est-à-dire vraiment des personnes qui accompagneraient justement pour le design d'une évaluation, parce que ça, c'est un manque. Comment ça se passe, toi, de ton côté, parce que on en demande beaucoup aux enseignants. Tu sais, t'es expert dans ta discipline. Et c'est sûr que pour t'adapter au contexte actuel de notre société, là, du 21e siècle, tu dois, veux ou veux pas, justement, développer des compétences TIC. Mais tu dois aussi scénariser. Et la scénarisation, il y a, l'un de mes premiers, si tu veux, ma formation en France, on nous appelle ingénieur pédagogique, c'est-à-dire ça va être une personne qui va être à même de faire de la conception, accompagner un projet, faire de la réflexion sur quoi que ce soit. C'est un métier. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi quand tu as un enseignant qui, lui, justement, se dit, franchement, c'est super, j'aimerais bien rentrer dans le monde de l'évaluation en ligne, lui, me faciliter la vie pour l'évaluation formative, aider mes enseignants. Le temps où je le trouve, comment je fais, dégrèvement, mais c'était pas quelque chose pour tout le monde. Ils viennent frapper à ta porte, puis toi, tu fais quoi?
Je vais prendre l'exemple des enseignants qu'on a, on a en pharmacie au Cégep. Okay. Pharmacie, c'est un nouveau programme.
Oui, c'est un nouveau programme, effectivement.
C'est un bel exemple parce qu'il n'y a pas d'historique de pharmacie dans les Cégeps, il n'y a pas de matériel pédagogique, il n'y a rien. Puis les profs, qui sont des pharmaciens, délaissent leur milieu professionnel pour tenter l'expérience d'enseignement et puis tout ça. Puis ils réalisent à quel point enseigner, c'est du travail, c'est beaucoup de préparation.
Pédagogie,
oui. Oui, puis je les ai accompagnés, entre autres, là, dans l'évaluation numérique. Puis, tu sais, d'une part, ils ont ils ont l'outil qui permet certaines choses, puis ils ont leur désir d'évaluer certaines connaissances, puis faire développer certaines connaissances, compétences, puis les évaluer. Fait que nous, c'est le dialogue qui fait qu'on se rapproche un peu pour comprendre un peu c'est quoi leur besoin à eux, pédagogique, puis qu'est-ce que l'outil technologique permet de faire. Puis là, c'est là qu'on essaie d'arrimer tout ça ensemble, mais ça demande du temps. Puis c'est vrai qu'ils trouvent que le temps manque beaucoup. Fait que c'est un grand défi, ça. Puis d'avoir la possibilité, s'ils avaient là, accès à, par exemple, un designer pédagogique qui leur permet de bien designer les questions, parce que parfois, là, ça reste quand même de base, puis on est très... Tu sais, les gens, les profs, vont beaucoup refaire un peu ce qu'ils ont vécu alors qu'ils étaient sur les bancs d'école, parce que c'est le modèle qu'ils ont eu.
Ben oui.
Les gens de métier n'ont pas nécessairement encore commencé de formation en pédagogie, donc ça va venir parce qu'ils s'inscrivent avec... Performa, puis vont se spécialiser un peu plus en pédagogie, mais ça reste qu'ils vont aller un peu à, selon ce qu'ils pensent, selon fait que ça fait qu'on a un défi de les accompagner. Tu sais, je ne suis pas tout seul à interagir avec eux. Là. Chaque département est accompagné d'un conseiller pédagogique, donc ils vont travailler souvent avec le conseiller pédagogique au niveau de la pédagogie, là, comment je devrais poser mes questions, de quelle façon je devrais le faire. Ça m'arrive aussi de le faire, mais souvent, ça va se limiter à des questions techniques de « Ah, mais dans l'outil, comment je fais ça? » C'est un moyen où je pourrais intégrer un lien vers une ressource que je veux qu'ils consultent. Puis, c'est que l'outil permet beaucoup de choses, puis on a des questions qu'on voudrait poser. Puis là, ben, à un moment donné, on a des limites techniques. Des fois, on réussit à faire évoluer la question pédagogique parce qu'on découvre des fonctionnalités techniques qui nous permettent d'aller un peu plus loin que ce qu'on pensait au début. C'est de s'approprier ça, puis de se donner du temps, puis éventuellement, là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus élaboré. Ouais. Tout de suite, on le voit, là, les profs, ils vont peaufiner. Déjà, ils savent déjà, là, après première passation d'un test, exemple, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont améliorer parce que, bon, il y a des ratés, on s'adapte, on s'ajuste. Mm-hmm. C'est très, très, très organique un peu, hein, tout ça.
Oui, c'est ça, c'est très organique. Et puis en plus, c'est vrai que tu parlais des questions ou de la manière de formuler les questions, mais je le voyais plus dans une sorte de parcours, tu sais, d'apprentissage, ou tu sais, un peu comme dans un jeu vidéo où tu as différentes plateformes, tu as plusieurs boss, etc. Exactement, c'est comment les accompagner dans toute cette réflexion d'intégration de leur discipline et de leur expertise. C'est pour que l'étudiant, en fait, rentre dans un parcours d'apprentissage, puis arrive à la fin aux différentes compétences. Et les conseillers pédagogiques en aident beaucoup, effectivement.
C'est ça. C'est là que, si on voulait être plus systématique, il faudrait toujours être un conseiller pédagogique et le technopédagogue lorsqu'on rencontre des départements ou des enseignants, puis qu'on puisse travailler en collaboration continue pour accompagner les profs dans cette optique-là d'être plus... d'avoir une vision plus globale de leur cours, global dans le sens où je design et j'ai une bonne idée du plan d'action. Parce que les choses vont vite, le temps manque.
Temps manque.
Une charge de cours peut être une quinzaine d'heures parfois par semaine, des fois moins, plus, ça peut varier. Ça donne du temps à travers ça pour travailler, mais il n'y a pas, exemple, comme au primaire ou au secondaire, des journées pédagogiques où on peut s'asseoir puis travailler, là, spécifiquement sur la pédagogie à intervalles réguliers, exemple aux deux semaines. Là. On n'a pas ça. Tiens, une fois que la session est commencée, on a 15 semaines là, intenses, on a une intercession qui vient se placer là, mais souvent, les profs vont faire de la correction, donc ils n'ont pas tant le temps à investir à développer la pédagogie. Parfois, ils ont besoin d'une pause.
Donc, c'est ça.
C'est le temps là, qui est un élément clé. Mais tout investissement rapporte à long terme. Ça, des fois, faut comprendre qu'on va travailler plus fort les premières années, puis après ça, ben on va pouvoir un peu maintenir, puis peaufiner, puis améliorer, mais ça demande toujours du temps.
Ouais,
puis c'est humain. L'humain a besoin de temps pour évoluer. Puis ça,
c'est
tout à fait naturel.
Ben, dans ton rôle de technopédagogue, j'ai été épatée par le travail que tu mènes. Tu sais, le fameux site un peu de veille et d'accompagnement dont tu avais parlé lors de la rencontre reptique, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Parce que c'est, ben, tu sais, c'est pas tous les conseillers technopédagogiques. Puis c'était ce qui m'intéressait beaucoup, en fait, en t'invitant, c'est de savoir comment tu as réussi à concrétiser, en fait, un accompagnement Tu sais, même si tu es encore dans des défis de t'adresser à tous les enseignants du cégep, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'outil puis la plateforme, en fait, qui te permet de communiquer ou de laisser des démos ou d'accompagner au mieux les enseignants?
Ben oui, c'est quelque chose que j'avais mis en place dans un autre emploi, là, au centre scolaire. J'avais besoin de rendre disponible le contenu que je produis en aide aux profs. Donc, souvent, c'est des procédures qui vont être plus techniques de comment je fais, comment je m'approprie l'outil en plusieurs versions, puis tout ça. Fait qu'on a reproduit ça au cégep. Je l'ai accéléré avec l'arrivée de la pandémie parce que là, on a eu vraiment à mettre là, les bouchées doubles là, pour accompagner nos enseignants dans la reprise des cours à distance. Ils avaient un défi, là, un besoin très, très, très pressant de je dois donner des cours en visioconférence, puis après ça, je vais travailler l'évaluation, puis après ça, je vais aussi adapter mon contenu que j'avais fait pour mon cours en présence pour qu'il soit disponible à distance. Donc, ça a été un bon défi, mais pour résumer tout ça, dans le fond, on a une plateforme web, on a un site web là qui contient des capsules vidéo qui sont hébergées sur la chaîne YouTube du Cégep. On a des procédures texte, on a des éléments plus pédagogiques. Donc, on a un peu de tout là sur les différents outils qui sont amenés à utiliser au Cégep. Donc, on avait un peu référence aussi là le cours J'enseigne à distance, la TELUC qui avait mis en place là dans le début de la pandémie. Là, ils ont fait des choses en accéléré eux aussi. Donc, on s'est un peu inspiré de ça pour accompagner nos enseignants. Mais d'une part, on a ce site-là qui est toujours disponible. Les gens me posent une question par courriel. Ben, je peux donner une réponse sommaire par courriel, mais je réfère à la page ou à la capsule en question. Puis, éventuellement, le réflexe qu'ils ont, c'est d'aller consulter la vidéo. Puis après ça, quand ils viennent me voir, ben là, ils ont une question qui est un peu plus raffinée. Là. Ça va au-delà de comment je fais ça dans l'outil. Ils disent, hey, j'ai regardé ta vidéo, puis je me rends compte que peut-être que je serais capable de faire ça, est-ce que c'est possible, puis comment je pourrais m'y prendre. Puis là, on démarre un peu à la façon de la classe inversée. C'est une façon de se multiplier puis de se rendre disponible tout le temps pour après ça prendre les questions à un plus haut niveau. Il y a ça, on a mis en place aussi un Teams, donc on a un Teams avec tous les enseignants invités là-dedans. Puis pourquoi un Teams? C'est sous la forme d'un forum, hein, quand quelqu'un pose une question puis que la réponse est disponible à tous, bien, il y en a que juste de consulter, faire une recherche. Est-ce que la question a déjà été posée? Ah, c'est ça qui a été donné comme réponse. Parfait, je vais continuer. Donc, on a des profs qui ne me contactent pas nécessairement, mais qui consultent régulièrement ce qu'on produit pour se débrouiller tout seul. Ça, c'est un élément que j'ai réalisé avec les enseignants du cégep. Ils vont investir beaucoup de temps pour trouver les solutions eux-mêmes.
Ouais.
Donc, je l'essaie. Puis quand ils nous contactent une première fois, parce que ça va souvent être les nouveaux enseignants là, qu'on va contacter parce qu'on a une procédure d'accueil officielle. On va les rencontrer en petits groupes, les nouveaux enseignants, au début de chaque session. On se présente, tous les CP, on se présente, puis on présente nos ressources, puis on présente notre service, puis tout ça. Bien, ils ne tardent pas à nous contacter. Puis là, ils réalisent que hey, j'aurais dû te demander de l'aide avant. Là, ça fait 3 heures que j'explore, puis j'essaye de trouver une solution. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de leur dire. Fait que d'une part, oui, la ressource est là pour accélérer le temps de recherche, mais pour leur montrer aussi que perdez pas trop de temps à essayer de vous débrouiller vous-même. Demandez-nous, on est là pour ça. On est là pour vous aider, vous guider, vous faire sauver du temps, pour vous enlever un poids de sur les épaules. Et un autre poids qu'on aide à enlever de leurs épaules, c'est l'aide aux étudiants. Fait qu'on a le même genre de système pour nos étudiants. On a des tuteurs qui sont là pour répondre à leurs questions. Les tuteurs sont en présence dans un local là à la bibliothèque. Ils sont aussi à distance dans le Teams. Donc, les étudiants se connectent dans le Teams, ils peuvent poser leurs questions, peuvent même prendre rendez-vous avec Booking. Ils peuvent consulter les capsules qu'on a dans la zone numérique pour les étudiants dans le site du Cégep. Donc, on a vraiment le même équivalent. Là, on a deux systèmes là qui sont présents pour le personnel et pour les étudiants. Donc, ça aide les enseignants pour leur enlever le poids des épaules d'expliquer comment ça fonctionne tel outil en classe alors que ils ont juste à les référer à la zone numérique. Puis les tuteurs sont là pour aider l'étudiant qui veut faire une bibliographie puis des notes en bas de page en gérant les sources dans Word, exemple. Ben, ils vont pouvoir l'aider à mettre ça en place au besoin.
Mais ça paraît monstrueux, là. Comment vous trouvez le temps? T'sais, la notion du temps, justement, on l'a évoqué là dans notre conversation.
Ben, c'est d'investir du temps pour le récolter par la suite. Donc, ça demande beaucoup de temps au début. Tu sais, je faisais le bilan l'autre fois, puis on avait une centaine de capsules vidéo dans la chaîne YouTube là, en lien avec tout ça. dont plusieurs qui seraient dus à être renouvelés parce que bon, l'interface a changé un peu, les fonctionnalités se sont adaptées. C'est un peu ça le défi hein, qu'on vit là, avec les technologies, c'est d'avoir à constamment réviser, refaire parce que tout change, tout évolue.
Tout va très bien.
À la blague, je dis, il n'y a rien de plus permanent que le changement.
Oui.
Donc, c'est ça.
Donc, c'est ça, effectivement.
Mais les gens s'adaptent, puis même si ce n'est pas parfaitement comme l'interface, là, ils vont s'y retrouver, puis ça va bien quand même.
Écoute, ce serait vraiment intéressant de partager en fait les ressources ou le nom de cette plateforme. Est-ce que des collègues conseillers technopédagogiques ou est-ce que c'est sûr que c'est axé pour le cégep de Drummondville? Mais j'ai entendu en fait certains conseillers technopédagogiques d'autres cégeps qui disaient « Hey, je regarde tes tutos ou un de mes enseignants » ou est-ce que c'est ouvert à d'autres?
Ben oui, c'était l'intérêt. On a l'option de mettre ça dans un SharePoint, exemple, puis c'est fermé, puis tout ça. Puis SharePoint était super intéressant pour créer des sites, puis intégrer des vidéos, puis ça fait quelque chose de beau, mais ça reste fermé. Puis moi, mon désir a toujours été d'être ouvert. J'ai œuvré 10 ans dans le réseau des centres scolaires, j'étais RSI. Le RSI est un réseau très, très ouvert, très.
Ouais.
On rend nos choses accessibles. Puis moi, j'avais la même posture quand je suis arrivé comme reptique de dire, bien, ce que je vais produire, je veux que ce soit disponible. Je ne prends pas le temps de toujours mettre des Creative Commons sur ce que je fais, mais dans ma tête, c'est là et c'est disponible à tous. Quelqu'un qui me demande la version Word d'un document pour l'adapter à sa couleur locale, ben, je vais lui envoyer sans problème parce que, ultimement, on travaille tous pour la même cause. On est tous le même employeur, ultimement.
Oui.
On est dans le réseau public parce qu'on est là pour s'entraider. Et oui, c'est arrivé souvent là, que des collègues me disent « Hey, j'ai regardé tes vidéos, puis je l'ai utilisé, puis est-ce que tu me permets de le faire? » Je dis « Ben oui, il n'y a pas de problème. » Il y a plusieurs capsules qui sont vraiment d'ordre, c'est très générique, là, tu sais, exemple, comment OneDrive fonctionne, mais ça, il n'y a pas la couleur, à part de dire « Ben, le OneDrive s'appelle Cégep de Drummondville, ça va être la même chose là, pour un autre Cégep, donc oui, utilisez-le. » Il y en a qui les trouvent par Internet. Juste donner un exemple, au centre scolaire où j'étais, je nommais souvent les vidéos « Comment faire telle chose? » Puis on s'est rendu compte qu'ils étaient trouvés dans les moteurs de recherche de YouTube puis ils sortaient dans l'algorithme parce que la chaîne, les vidéos ont explosé là, le total d'un million de vues là, pour la chaîne au complet. Là, puis c'est ça. C'est de rendre ça disponible, d'avoir un esprit ouvert à dire « ben on s'entraide. » Puis tu sais, c'est pas juste les cégeps là, qui vont consulter les vidéos. Là. J'ai des gens de l'Afrique francophone qui découvrent l'ordinateur. Donc, il y en a aussi encore aujourd'hui là, qui sont pas au point où on est puis qui découvrent. Donc, ils ont besoin d'une capsule d'initiation de base puis ils vont la trouver. Oui, c'est ça. Je pense qu'on gagne à mettre en commun nos ressources. Puis, c'est un fantasme qu'on a avec les technopédagogues puis les reptiques là, d'avoir une espèce de lieu commun où pourquoi on travaillerait tous, chacun de notre côté, à refaire la même chose. Ça, c'est un... Pourquoi refaire la roue? Puis, c'est ça. Mais des fois, l'urgence d'agir nous porte à l'action plutôt que de prendre le temps de structurer les choses. Même si on retardait un peu, on aurait quelque chose de plus concerté puis de plus collégial puis de plus commun. C'est ça. C'est l'urgence d'agir, je pense, des fois, qui nous bloque dans cette mise en commun-là.
Oui, c'est ça, être dans le vif du sujet, t'es dans ton cégep, il y a des demandes, il faut des réponses, puis des fois, c'est effectivement, tu sais, à la période, justement, de la pandémie, c'était des réponses qu'il fallait apporter au plus vite, hein. On est toujours un peu en mode pompier, mais ça fait partie aussi de la job, effectivement.
Et je profite, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, puis je me rends compte que j'ai pas la ressource dans mon site ou ailleurs, ben, tout de suite, je vais aller la placer. Des fois, je vais pas créer la ressource au complet pour pas retarder la réponse. Je fais une capture d'écran, je vais expliquer rapidement à la personne, garde, fais ça comme ça, tu vas t'en sortir. Mais par la suite, je vais prendre le temps de l'intégrer dans une page, là, puis d'aller la placer pour que la ressource soit disponible par la suite. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaie de faire évoluer les ressources qu'on a. Il manque quelque chose, ben là, je vais l'ajouter. Comme exemple, là, cette semaine, là, je me replonge là, dans le travail, puis je me rends compte que, bon, là, SharePoint, j'ai rien sur SharePoint en soi dans mes ressources, mais j'ai des profs qui tranquillement veulent aller vers là. Ben, OK, là, je vais me lancer dans la production de contenu sur SharePoint. Là, j'ai quelques ressources sur Spaces avec l'environnement 360. Là, on fait des visites guidées, exemple, là, en technique d'évaluation d'estimation en bâtiment. On a fait des visites guidées de chantier ou de maison pour que les étudiants puissent consulter comme s'ils étaient sur place. Ça peut fonctionner avec un casque de réalité virtuelle où on consulte en 2D à l'écran. On ajoute des points d'interaction dans l'image, puis on peut passer d'une photo 360 à l'autre, puis faire une visite carrément du chantier. On l'a même fait avec une pharmacie pour le département de pharmacie. On a une pharmacie de hospitalière là, qu'on a visité, puis on peut faire la visite. Là. Fait que les étudiants, au lieu de se déplacer, peuvent faire ça. Fait que c'est ça. Quand on a les besoins, on met en place les ressources, puis on... C'est un travail continu, c'est un travail... il va y avoir un nouvel outil qui va arriver. Puis là, Apple s'en vient avec des casques de réalité virtuelle.
Oui, c'est
là,
ça, pour le prendre une somme.
C'est ça. Donc, il y a constamment des nouveautés technologiques.
C'est ça le fait.
Là, elles vont éventuellement prendre leur place dans la pédagogie. Puis là, c'est à nous un peu de... C'est ça, d'être en avant, de regarder, puis de chercher. Puis là, au Reptic, hein, on a des communautés qui se penchent sur les technologies immersives. Donc, on travaille avec certains cégeps, il y en a qui sont avancés, il y en a qui ont du matériel. Tu sais, c'est tout le temps une question de matériel aussi, là.
Mais oui.
C'est une question d'argent. Donc, c'est du temps et de l'argent que ça prend finalement pour avancer. Puis le reste, c'est la curiosité puis l'imagination qui nous amène où on veut, là.
Oui. Mais tu sais quoi, on arrive déjà à la fin. Ça, c'est à la fin de notre rencontre. Mais avant qu'on se quitte, j'ai comme une nouvelle question. Ce n'est pas vraiment une question, mais un peu un nouveau rituel que j'ai intégré là pour 2023. Je te donne un mot. Je dis juste un mot, puis tu me dis ce que tu en penses, ton ressenti, etc. Puis peut-être que tu en profiteras par la suite pour parler peut-être d'un projet, mais tu en as déjà parlé, en fait, d'un projet à court terme ou moyen terme, par exemple, tu parles des technologies immersives, mais si ça te tente de parler un peu de tes projets, c'est cool. Mon mot, c'est ChatGPT.
Ouais, on a découvert ça un peu avant les fêtes, là. ChatGPT, là, je me suis créé un compte, puis je me suis amusé à jaser avec, là, puis à voir... le potentiel, les risques, ça va chambouler bien des choses. Il n'y a pas juste l'éducation que ça va influencer, à mon avis. Là, il y a plusieurs articles qui se sont écrits, là, qui ont été écrits plus tôt et qu'on a pu consulter à travers ça. Donc, le milieu artistique, la rédaction, les blogs, le traitement de l'image, là, la démo que j'avais vue, là, juste pour l'image, là, de dire « dessine-moi un chien qui pêche... » dans un lac rose, il va nous le sortir en quelques instants, en 5 déclinaisons différentes. Là, puis plus on met de détails, plus les détails sont là. Donc, c'est ça. Ça va être un outil qu'il va falloir apprivoiser pour en tirer profit le plus possible. Mm-hmm. Puis, il y a certains groupes Facebook là, qui se penchent sur l'éducation, puis il y a plein de pédagogues qui disent « Hey, j'ai fait ça », puis invente-moi des questions où je mets tel paramètre en relation, puis la question apparaît. Donc, je pense qu'il va falloir, comme pédagogue, tirer profit de ça, puis adapter notre évaluation pour éviter que les étudiants se servent de ça pour nous en passer une petite vite.
Oui, c'est ça.
C'est un peu ça le défi, je pense, c'est d'éviter que les étudiants, là, parce que ça va, j'ai vu des exemples, abordent telle thématique dans la littérature de tel auteur, puis c'est assez étoffé et surprenant ce que ça va sortir. Là, comme Donc, oui, comme pédagogue, il faut qu'on s'adapte à ça. Mais il faut en tirer profit. On ne peut pas juste aller contre, mais on peut l'exploiter et s'en servir. J'ai posé telle question à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse?
Ouais.
Fait que là, il va falloir peut-être penser à des évaluations plus organiques, plus comme on fait présentement, là, une entrevue. J'ai plusieurs enseignants qui ont fait ça avec la pandémie. Là. Ouais. Rendez-vous avec chaque étudiant. On se parle. Ça, là, écoute, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte quand on est en train de dialoguer. Ça va peut-être amener des changements dans l'évaluation, mais forcément, ça va révolutionner bien les domaines. Même le code, là, ça code. Là, qu'un étudiant d'informatique peut résoudre un problème que le prof lui demande en vérifiant avec l'intelligence artificielle. Fait que c'est pour se valider, pour étudier, pour réviser. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais...
Ouais, faut trouver le lax. Mais tu sais, hein, on parle de justement de beaucoup d'intégrité numérique intellectuelle. La plupart, j'ai découvert que la plupart des outils qui sont utilisés pour plagier sont des outils contre le plagiat. J'ai découvert ça dans plusieurs chaînes TikTok d'étudiants qui justement disent, écoutez, vos profs utilise ces outils pour vérifier si vous allez plagier, on va partir de ces outils pour plagier. Et tu sais, je me suis rendu compte, tu sais, je suis toujours un peu dans tout, dans les réseaux sociaux, tu sais, je regarde un peu tout. C'est des choses, en fait, qui m'intéressent pas nécessairement, mais c'est le comportement, en fait, des gens et cette culture, en fait, numérique qui se développe, qui m'intéresse beaucoup.
Donc, côté anthropologue, ça.
Ça, c'est ça. Mais c'est, tu sais, le gap qu'il peut y avoir aussi entre le corps enseignant, pédagogie, tu sais, le corps, on va dire, de ces adultes, en fait, hein, qui sont dans leur posture professionnelle, puis ils veulent accompagner au mieux les étudiants pour qu'ils soient aussi des citoyens, de bons citoyens en devenir. Mais il y a aussi ce qui se passe actuellement où on a plus de distance. C'est de prendre mon téléphone, puis de faire une démo sur TikTok, c'est pas quelque chose qui va me prendre le matin, mais les plus jeunes, ils ont justement cette tendance à tout de suite, tu sais, dégainer leur téléphone intelligent, prendre une vidéo, faire le montage, et réfléchir aussi à peut-être comment contourner. Et moi, je me suis rendu compte de ça vraiment en étant dans un peu une espionne, mais en utilisant en fait les réseaux Snapchat, TikTok et tout pour découvrir en fait la liste de des outils que les étudiants utilisaient pour contre le plagiat mais pour plagier. Donc c'est des choses qui sont bonnes à savoir et qu'il faut aussi véhiculer entre nous là entre dans le réseau. Mais ouais, c'est ça. Alors projet court, moyen, long terme.
Projet agrandissement futur au cégep de Drummondville dans les 2-3 prochaines années. Donc, projet de Fab Lab. Ça me motive beaucoup.
Ouais.
Fab Lab avec une visée plus vie étudiante.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a des choix à faire là, quand on agrandit. Puis tout ça. Puis là, ben, je pense que vie étudiante, donc activité plus
scolaire.
Innovation, c'est ça. Ouais. Puis peut-être même. Est-ce que ça va être dans le Fab Lab ou pas, mais je veux qu'on entre une flotte d'appareils de réalité virtuelle aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire vraiment avec ça. Là. On a un programme de soins infirmiers comme partout ailleurs, mais beaucoup d'éléments qui se font. On peut créer des petites mises en scène, puis faire réfléchir l'étudiant sur qu'est-ce qui vient de se passer. Même chose en technique d'intervention en criminologie. Technique en criminologie là, qui est en train de changer de nom, là, qui était intervention en délinquance qu'on avait. Qu'on a présentement au cégep. Donc, c'est ça, c'est continuer d'innover là, en amenant là, les étudiants à utiliser des outils plus. Les outils du futur pour. Mais toujours avec une visée pédagogique. Fait que, Fab Lab, moi, je suis un bricoleur, réparateur, patenteux depuis longtemps. Donc, ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que c'est une culture qui va se perdre si on n'amène pas nos étudiants dans un contexte où ils vont pouvoir eux-mêmes réparer. Le Québec a une histoire rurale très présente, puis les gens, ils réparaient ce qu'ils avaient, puis il y avait les moyens du bord, puis il y avait ce réflexe-là de réparer, de faire eux-mêmes, puis tout ça. Puis là, si on écrit juste des articles de blog, puis qu'on produit du contenu numérique, on est loin des mains dans la matière là, à réparer, à inventer, créer, répondre à des besoins. Fait que je trouve que ça va nous permettre de se replonger un peu dans nos racines, là, d'avoir un Fab Lab puis d'aller créer avec quelque chose de moderne, mais avec l'esprit de on va organiser des soirées où amenez vos trucs, là, répare tes trucs. Là, des collègues de Fab Lab dans le Bas-Saint-Laurent là, qui appellent ça comme ça, là, répare tes trucs.
Répare tes trucs.
Ben, j'ai une lampe qui la fiche électrique a arrachée. On est capable de réparer ça là, si on a les moyens et une personne ressource sur place. Donc, c'est ça. On veut amener ça, un esprit de développement durable aussi, là, pour derrière tout ça.
Ah, c'est super. Franchement, c'est de super projets. Merci beaucoup. On aurait pu continuer à parler comme ça longtemps.
On peut parler de sujets
fascinants. C'est ça. Merci beaucoup, Sébastien, pour ce partage, pour aussi ta vision et ta perception de la technopédagogie. C'est ça. On continue le travail, on lâche pas, n'est-ce pas?
Super, merci. Bel échange, bien aimé.
Super. Allez, à bientôt.